sans être changé. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si vous voulez, prenez une place. Avant de commencer, si vous avez vu les jeunes, si vous êtes un des parents des adolescents, et si vous voulez envoyer vos critiques, envoyez-les au pasteur Marc. Si vous avez voyé les jeunes en train de jouer au tir sur laser pour une église mennonite, c'est pas bon. Pasteur Marc, tu es en trouble. Alors, une annonce importante, s'il vous plaît. Cette semaine, tous les ministères vont être en alerte juste à cause de cette semaine. Nous prenons une pause. Alors, nous allons avoir un focus sur la prière le mercredi 7 mai à partir de 19h. Et il y aura à la cafétéria à partir de 17h les dîners servis à acheter. Alors, dans toutes ces occupations à travers la vie, alors prions pas seulement pour nous-mêmes, pour l'Église, mais pour le monde. Voulez-vous vous joindre avec nous mercredi 7 à 19h? Le cafétéria sera ouvert à 17h et jusqu'à 6h45. S'il vous plaît, considérez cela. À ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Vin, je suis l'un des pasteurs à l'Église. J'ai la joie et le privilège de partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, gardez vos Bibles ouvertes sur Matthieu 28, 16, 20, alors que nous continuons notre culte. Un accueil tout particulier à tous ceux qui sont ici pour la première fois, à nos étudiants qui se joignent à nous aujourd'hui. Spécialement pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, les étudiants. Et c'est pourquoi on a vu tout ça et ils sont en train de l'idée. Alors, étudiants, j'ai pensé à toutes les illustrations que je pouvais avoir et j'ai tout fait mon meilleur pour le diriger vers vous. Alors, imaginez avec moi, étudiants, c'est le jour de votre graduation. OK? Vous êtes bien habillé, vous êtes et votre directeur vient, que vous l'aimiez ou pas, il va prononcer son dernier discours que vous avez passé de il vous dit mais vous avez passé des années à étudier, à apprendre et à grandir. Ça serait décevant dans son dernier discours s'il disait seulement bravo, rentrez chez vous. Mais imaginez, imaginez plutôt ce qu'il. Imaginez ce qu'il peut dire de mieux, dire vous avez surmonté les épreuves. Nous sommes passés à travers des moments difficiles et ces moments nous ont rapprochés à travers les années. Mais maintenant, il est temps pour vous de partir représenter cette école, recruter de nouveaux élèves, enseignez-le nos valeurs. Et revêtez-le de notre uniforme. Allez, maintenant vous pouvez y aller. C'est un peu la scène que nous voyons à la fin de Matthieu 28. Jésus ne dit pas, à la fin avec ses disciples, merci de m'avoir suivi, maintenant rentrez chez vous. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Par contre, il ordonne, il dit, allez disciples, je vous envoie en mission, baptiser, d'enseigner, et alors que vous le ferez, alors que vous ferez ce que je vous demande, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Alors aujourd'hui, j'ai trois points que je vais développer qui sont simples. Un grand Dieu, une grande mission, et une grande famille. Je vais répéter, un grand Dieu, une grande mission et une grande famille. La semaine dernière, le pasteur Ray a prêché sur Matthieu 28, 16 à 20, en insistant sur le discipulat, tâche confiée aux disciples et à nous, parce que c'est ça qu'il a confié à ses disciples et qu'il nous confie aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous resterons dans le même passage. La semaine passée, c'était sur le discipulat. Cette semaine, ça va être sur la famille. Non une famille ordinaire, mais celle que nous appelons l'Église. Si vous ne saviez pas qu'on pensait à propos de ça, qu'est-ce que ça veut dire quand il s'agit de la famille? Voici comment nous, leaders d'Église, définissons la famille. Regardez sur l'écran. Dieu le Père adopte les disciples de Jésus dans sa famille éternelle. Enfants de Dieu, nous centrons notre vie d'Église sur Jésus, fondamentalement bâtisseur et chef de l'Église. En demeurant en lui, nous sommes ensemble comme des pierres vivantes pour former une pierre spirituelle où Dieu réside par son Esprit. En Christ, nous sommes son corps sur terre, appelé à être les principaux agents de son royaume pour sa gloire parmi les nations. Par son esprit, Dieu équipe chaque membre pour servir afin que nous grandissions en maturité et ministrions autour de nous. Quand les disciples marchent dans l'amour et l'unité, ils reflètent l'image de Jésus au monde. Cette affirmation, il y a beaucoup de choses à développer ici, mais ces affirmations sont disponibles sur notre site pour approfondir. Vous pouvez lire et relire pour, en famille ou en groupe de, ou dans vos groupes d'études. Avant de parler de la famille, devons commencer par le Père. Et c'est là que nous amène à notre premier point. Alors que nous avons une grande famille, nous avons besoin d'un Dieu grand. Au début du passage, les 11 disciples, ils sont en Galilée, sur une montagne que Jésus leur a indiquée. Jésus leur dit, rencontre-nous à Galilée. On sait qu'ils sont 11 parce que Judas ayant trahi, son remplacement n'était pas encore intervenu. Ça va se passer dans Actes. Avant toute instruction d'aller à Galilée, rencontrer Jésus, Jésus rappelle, avant qu'il leur donne l'instruction, avant de faire autre chose, il leur dit d'abord, il leur parle d'abord de l'autorité qu'il a. Après ma conversion et mon appel au ministère, je suis devenu Christ et je suis appelé au ministère. J'ai commencé comme ma première position comme pasteur, c'était comme un pasteur de la jeunesse. Tôt dans le commencement de mon ministère, c'est quelque chose que je n'avais jamais appris dans l'école biblique. Et j'étais appelé, une mère m'a appelé de l'église où je servais. Une mère de l'église m'a appelé en panique. Elle criait sa fille en crise et c'est ce qu'elle me dit. En arrivant, la mère en larmes m'a guidé, qui l'a menacée. C'est la fille qui est en train de la menacer. En arrivant, j'arrive là-bas, la mère en larmes m'a guidé vers sa fille. Je pouvais voir qu'elle pleurait et elle me pointe pour aller jusqu'au fond du couloir. Et au bout du couloir, la fille est là debout. Un couteau à la main, elle le pointe vers moi. Elle a crié. Elle faisait partie de mon groupe de jeunes. Elle me dit que si j'approchais, elle allait me planter le couteau. Conseil aux futurs pasteurs, jeunesse, et ne répétez jamais ce que j'avais dit ce jour-là. ne fais pas ça. Connaissant mon passé pré-chrétien, j'étais encore très jeune. Elle ne savait pas le type de personnalité que j'étais avant d'être chrétien. Parce que c'est ça ma réponse à que j'ai lieu donné. La première réponse, j'ai dit, vas-y, essaye. J'avais déjà été menacé de cette façon avant, croyez-moi. Voyez-vous, avec ce couteau sur sa main, elle avait le pouvoir sur moi. Mais pas d'autorité sur moi. Est-ce que ça c'est compréhensible? Elle avait le pouvoir sur moi, mais elle n'avait pas l'autorité sur moi. Alors que nous entrons dans cette image, Jésus possède toute autorité à travers sa mort et sa résurrection. Il a maintenant toute autorité. Et c'est ce que ça veut dire. Et si c'est ce point, le point d'entrée, c'est lui qui possède toute autorité, envoie maintenant son peuple vers toutes les nations. Maintenant, il a toute son autorité. Quand Jésus donne la grande commission, c'est en tant que ressuscité, c'est après la résurrection. Il démontre qu'il a vaincu le péché et la mort. À travers sa mort et sa victoire, il est revenu à la vie. Il montre que la mort n'a plus de pouvoir, particulièrement sur sa famille. Avec toute cette autorité, je pense que c'était intéressant après la résurrection, comment il appelle ses disciples. Si vous allez avec moi en Matthieu 28, 10, il voit Marie qu'après la sortie de la tombe, au verset 10. Alors Jésus dit, « Allez annoncer à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Ne craignez pas. » Souvenez-vous, ça c'est après la résurrection. Il est vivant, mais bien avant cette rencontre, avant ses commentaires, quand il est sorti de la tombe, qu'est-ce qui s'est passé? Après leur déni et leur fuite, on sait. Il nous a dit cela avant. Jésus aurait pu Jésus aurait bien pu les traiter de lâches ou de traîtres, les condamner d'une certaine façon. Au lieu, il pourrait les regarder et leur dire « Honte à vous ! Honte à vous, disciples, vous m'avez renié, vous avez fui, vous m'avez trahi. » C'est ce qu'il aurait dit dire. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'il fait? Il les appelle « frères ». Un terme réservé à la famille. C'est ça la bonne nouvelle pour... Peu importe nos fautes, nos trahisons, peu importe ce que nous avons fait hier et pour toujours, la bonne nouvelle, peu importe nos fautes, l'Évangile raconte comment Jésus nous intègre en sa famille, nous appeler frères et sœurs. Ce n'est pas à propos de ce que tu as fait, c'est à propos de ce qu'il a fait. Croyez-vous cela? Parce que si vous croyez, vous allez le suivre. Les disciples, voyez-vous, ils sont submergés par la présence de Christ ressuscité. Dès qu'ils le voient, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'adorent. Il y a certains qui ont hésité, mais ils ont adoré. Sachant que Jésus est ressuscité, qu'il a toute autorité, alors savoir qu'il détient toute puissance et autorité, quelle que soit la tâche qu'il confie à ses disciples hier ou aujourd'hui, nous pouvons agir avec assurance car à cause de son autorité, parce qu'il règne. Regardez ce qu'il dit. Il ne commence pas par une liste des tâches. Il ne dit pas « faites ceci, faites cela ». Ce n'est pas une liste où vous devez cocher ce que vous avez à faire. Il commence par lui-même. C'est comme ça que nous commençons. La mission ne naît pas de l'action. La mission commence par l'adoration. Avant d'aller pour lui, nous devons lever les yeux vers lui. C'est alors que nous pouvons aller en famille. Ce n'est qu'alors que nous avançons en famille, unis sous son autorité, l'autorité de Jésus. Et passons au deuxième point, une grande mission. Un grand Dieu, une grande mission. Au début de ce message que je vous ai partagé, notre vision détaillée de l'Église famille ici à Willingdon, voici une version concise. Une version concise, tout aussi profonde et affichée à l'écran, ça dit comme ça. Dieu adopte les disciples de Jésus dans sa famille, les unit par son esprit pour former son Église, les appelle à se servir les uns les autres et à refléter sa gloire au monde. Il y a la grande définition et puis la courte définition. Alors, étudiant, j'essaye. Lorsque votre mère vous a mis au monde, vous savez, le médecin, il y a un moment où le médecin a demandé à vos parents, il posait une question, il va demander quel est le nom de votre enfant. Par exemple, les docteurs demanderaient à mes parents, ils ont répondu Vin Don, pour mes parents, un exemple. Qu'est-ce qu'ils font avec ces noms? Alors, ils écrivent sur un tag ou bien sur un bracelet qu'ils vont mettre sur l'enfant. Ces noms inscrits sur son... Ça devient mon identité, inscrit sur mon certificat de naissance. Ça m'identifie depuis. Quand quelqu'un vous appelle par votre nom, vous savez qu'on s'adresse à vous. Vous savez vous identifier à cela. Et quand quelqu'un vous appelle, vous savez que c'est vous. Vous seul êtes identifié avec ce nom que vos parents vous ont donné. Aujourd'hui, ma mère n'utilise pas par mon nom complet en ce jour. Mais quand j'avais votre âge comme étudiant jeune, quand j'étais mauvais, méchant, ma mère disait « tu es vraiment mauvais ». C'est à ces moments-là que ma mère m'appelait par mon nom complet. Vindo, sauf quand j'ai déraillé. Quand elle m'appelait par mon nom complet, cela signifiait que j'ai fait quelque chose de mauvais. Alors, pensez un peu plus... si vous êtes mauvais, vous vous comportez mal. Quand on vous appelle par votre nom, vous vous souvenez que vous ne représentez pas le nom et la famille qui vous a été donnée. Mon point, quel est mon point ici? Le point que j'essaie d'expliquer, c'est que les chrétiens portent une marque d'identité qui les... ils font partie de la famille de Jésus. S'il y a quelque chose qui nous identifie, nous tous, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter la prédication du pasteur la semaine passée, la première chose que nous avons appris, c'est que vous allez me faire des disciples. Et puis alors, c'est d'aller faire les disciples de toutes les nations. Et s'il vous plaît, écoutez, c'est Willingdon notre campus, c'est que les disciples de Jésus suivent Jésus. C'est ça votre premier mandat. Le second point, c'est d'aller baptiser toutes les nations, qui veut dire les groupes ethniques. il ne dit pas aller baptiser au nom au pluriel, au singulier, mais il est non, il dit du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors pourquoi le baptême est-il crucial? Je sais pour les étudiants, peut-être que vous en avez un peu marre de l'histoire, mais allons-y un peu pour... vous savez, dans l'Église primitive, le baptême n'était pas à la légère. Il exigeait une préparation sérieuse. Enseignement s'était fait... Il y avait des enseignements préalables, la confession, et puis il y avait un moment de jeûne, et puis un renoncement public à Satan. C'était un engagement total, c'est bien plus qu'une décision privée. Une pratique fascinante, le baptême par triple immersion. Cela voulait dire... trois fois. C'est le faire une fois. Une fois au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. C'était commun à l'Église ancienne. Tertullien, un des pères fondateurs, décrit dans son livre sur le baptême, il dit « Nous sommes immergés trois fois, une fois pour chaque personne de la Trinité. » Ça, c'est l'Église, c'est la pratique. Comment c'était sérieux pour elle, la parole de Jésus dans Matthieu. N'était pas une formule creuse, mais c'était une déclaration spirituelle. Le baptisé était. Revêtu du nom du Dieu trinitaire. Et jusqu'au 16e siècle en Europe, les baptêmes et la citoyenneté étaient liés. À l'époque, l'Église aussi et l'État étaient quelque chose était lié. Le baptême était à l'époque un devoir citoyen. Les baptêmes des enfants, ils joignaient pas seulement l'Église, mais ils étaient introduits aussi à la vie politique et à la vie sociale. Et le baptême des enfants en relais, les anabaptistes qui ont rejeté le baptême des enfants, croyant que ça, on devait baptiser les grands les adultes, personnes conscientes. Et pour comprendre cela, c'est qu'au XVIe siècle, c'était des ondes de choc qui avaient été envoyées en Europe. Ça provoqua un séisme. C'était pas seulement une hérésie, c'était une trahison baptisée au nom de Jésus. Pour les réactions, et puis il y eut ce qu'on appelle l'édit de Charles Quint qui ordonna tout anabaptiste, homme ou femme, sera exécuté par le feu, l'épée ou autre moyen sans exception. Juste à cause d'être baptisé, voyez-vous comment c'était sérieux. Et beaucoup furent... Félix Mans avait été noyé à Zurich par des protestants pour avoir baptisé les croyants. Et à cause d'avoir refusé, Michael Sattler, moine devenu anabaptiste, fut torturé et brûlé vif. Sa femme avait été noyée quelques temps plus tard, juste à cause de ce problème de baptisme. Dirk Willems, qui a été martyrisé après avoir martyrisé, et l'histoire dit que après avoir fui la prison, après avoir été sauvé, il est rentré pour sauver un garde qui était tombé dans l'eau. Alors, il a été condamné. Ses frères moururent non par obsession de l'eau, mais parce que le baptême est... C'est quelque chose qui identifie au Dieu trinitaire et sauveur. Michael Horton, de séminaire de Westminster, il dit que le baptême, le croyant n'est pas marqué par l'eau, mais nommé par le Dieu qui l'appelle. Père, Fils et Esprit, comme membre de sa famille. Athanase, père fondateur aussi, qui a défini la Trinité, dit que être baptisé au nom de la Trinité, c'est être plongé dans la vie même de Dieu. Pas seulement sa mort, mais sa vie. Wayne Grudem, du séminaire de Phoenix, dit que le salut dépend du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Invoquer leur nom, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est dépendre d'eux, les honorer et déclarer que ce baptême vient d'eux et pour eux. Pas seulement les pères de l'Église, les théologiens, mais le Nouveau Testament nous donne une profonde théologie sur le baptême. On voit Galates 2, 30, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Cela veut dire le baptême apporte, c'est une union avec Christ, une unité avec Christ. Romains 6, 3, 4. Ignorez-vous que baptisés en Christ, nous sommes plongés dans sa mort pour marcher en nouveauté, que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Le baptême, c'est une mort au vieil homme et une résurrection en nouveauté, à une nouvelle identité, un nouveau nom, une nouvelle famille. 1 Corinthiens 12, 13 qui dit « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Voyez-vous, le baptême, c'est aussi l'appartenance, l'unité. Nous sommes unis comme une famille dans le corps de Christ. Ce qui voudrait dire aujourd'hui, quand on a vu Sarah et Elisapheth qui ont été baptisées, ça veut dire que elles sont nos sœurs. Quand les enfants sont baptisés, ces jeunes sont nos sœurs. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui croyez que Jésus est mort, qu'il a été envoyé mourir pour nos péchés, vos péchés, et qu'il a été ramené à la mort 3 jours après. Si vous n'avez pas encore été baptisé, jeune ou vieux, alors vous devez vous engager au baptême. Parce qu'à travers le baptême, vous êtes en train de dire que vous ne vous appartenez pas. Que vous vous identifiez au Père, au Christ et au Saint-Esprit. Mais si c'est cela le cas, vous devez vous engager aujourd'hui, aller à l'église et chercher Discovery Class, la découverte de Christ. Et mon troisième point et dernier point, une grande famille. Je parlais du deuxième point où il y avait deux. Vous souvenez-vous, j'ai donné une grande définition et un plus restreint, et maintenant je veux donner encore un autre plus court. Et voici ce qu'il est dit. Famille, grandir ensemble. Je vais prendre un temps pour réfléchir quand il s'agit de famille. Parce que le terme famille n'est pas toujours facile pour tous d'entre nous. Ici en Occident, il y a un adage qui était c'était une longue phrase, mais on l'a réduit, qui définit les générations, qui dit ici, c'est comme on dit ici en Est, en l'Ouest, le sang est plus épais que l'eau. Le sang est plus épais que l'eau. Selon cette logique, les liens familiaux surpassent les amitiés ou toute autre relation sociale. La famille est la plus grande chose. Mais je veux juste avoir une simple question. Si cela était vrai, alors pourquoi tant de familles sont-elles brisées? Pourquoi des enfants n'ont-ils aucun lien avec leur père et leur mère? Ils ont été abandonnés, donnés pour adoption. Si le sang était plus épais que l'eau, pourquoi la communauté philippine porte-t-elle les deuils des parfaits inconnus après la tragédie de la semaine dernière? Pourquoi? Si le sang est plus épais que l'eau, peut-être pour nous ici aujourd'hui, on trouve cela difficile à définir, ce qui nous unit comme l'humanité. On pense peut-être que c'est les mêmes intérêts ou le support de l'équipe que vous supportez, de soccer ou de hockey. Les Écritures de la Genèse jusqu'au Grand Mandat redéfinissent la famille selon Dieu. Souvenez-vous comment j'ai mentionné Matthieu 10, Jésus appelle ses disciples frères. Dieu appelle son peuple famille avec le terme de famille depuis le début. Pas seulement après la résurrection, mais avant la résurrection. Dans Genèse 17, 7, Dieu dit à Abraham, voilà ce qu'il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants. Après toi, je serai pour être ton Dieu et celui de ta postérité. C'est pas l'alliance de Dieu s'étend à la postérité d'Abraham. Dieu a fait une alliance pour jusqu'à la descendance. Osée 11, 1 dit, quand Israël était enfant, je l'aimais et je l'appelais mon fils. Hors d'Égypte. Pourquoi j'amène ça à l'Église? Parce que les personnes, quand Dieu appelle son peuple, ça veut dire que les peuples assis à côté de toi et tout autour de toi, ils sont ta famille. Les personnes autour de vous sont votre famille. Je sais, vous ne les avez pas choisis, mais Christ l'a fait. Parce que vous lui appartenez. Vous leur appartenez aussi. Savez-vous, les langages dans les Écritures ne sont pas accidentels. C'est un rappel qui parle de la famille de Dieu qui devrait et qui doit changer votre vie. Parce que faire partie de cette famille, ça va te coûter. Ça coûte. Être la famille de Dieu, ça change tout. Ça va coûter, ça va t'écouter parce que tu auras moins de temps libre pour toi. Tu auras moins d'argent que tu aurais aimé parce que c'est dépensé à la famille. Tu auras même de fardeaux à partager. Pourquoi? Parce que tu portes d'autres aussi. C'est ça la famille de Dieu. Mais la bonne nouvelle dans cette famille, on donne plus. Plus de joie que tu peux avoir par toi-même, n'est-ce pas? Et une famille inattendue que tu ne pouvais espérer. Et être partie de la famille de Dieu ne change pas seulement tes horaires, mais c'est une allégeance de chaque jour. L'un des versets le plus poignant, c'est Hébreux 2, 11, qui dit ceci. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler frères. Interpréter frères et sœurs, Jésus n'a pas honte, ce n'est pas notre sang qui nous unit, c'est son sang. C'est là où le sang devient plus épais que l'eau. Jésus, il sait comment nous sommes ordinaires, mais il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Comment est-ce possible? Comment ne peut-il pas avoir honte de nous? Je sais qui je suis. Mais au-delà de tout ça, il sait là où cette histoire va. Il voit la fin dès le commencement. Il sait qu'un jour, par son esprit, nous lui ressemblerons. Et parce qu'il connaît la fin de l'histoire, c'est pourquoi il est... Il veut donner son nom, il porte son nom sur nous. Alors, laissez-moi conclure de cette façon. Vous savez comment ça se passe dans l'armée? Un général ordonne à ses troupes, il va se mettre debout sur la plateforme et il va donner un commandement, il va dire à des milliers de personnes, et le général va dire, allez là-bas. Vous savez ce que les troupes disent? Ils y vont. Attaquer ici. Et puis il dit, nous allons aller attaquer les ennemis. Vous savez ce qu'ils disent? Ils y vont, il n'y a pas de question. Savez-vous ce qui est étrange? C'est que souvent le général ne va jamais avec avec sa troupe. Il commande, mais ils ne vont rarement. Mais c'est ce que Jésus fait. Jésus donne l'ordre de marcher et puis il dit qu'il va venir avec nous. Et c'est comme ça que nous concluons ce passage. Comment il conclut? Parce qu'il dit que je serai avec vous. Alors, Église, nous ne sommes pas envoyés comme des orphelins, mais comme des enfants aimés. Alors, que les dernières paroles de Christ inspirent nos premiers actes. Je vais répéter cela, que les dernières paroles de Christ puissent inspirer nos premiers actes de l'Église. Ce qui serait adorer Jésus, faire des disciples pour Jésus, baptiser de la famille de Jésus, enseigner Jésus et suivre Jésus. Un grand Dieu, un Dieu grand, une grande famille, une grande mission, une grande famille.